Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette autre édition de votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique, et sur le monde des geeks, en fin de compte. Puissance maximale sur les ondes de CKIA. Aujourd'hui, on est le 1er septembre 2008, déjà le 1er septembre, la fête du travail. Alors peut-être que vous nous écoutez sur le bord de votre patio, près de la piscine, parce que vous avez une journée de congé, ou peut-être que vous travaillez parce que vous êtes dans des services essentiels et vous êtes de retour à la maison après une journée de travail. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission. Vincent Langlois au micro, en compagnie de Sébastien Léonard.
Oui, bonjour.
Bonjour Sébastien. Et Christian Lacroix.
Salut, ça va bien?
Très bien, très bien. Guillaume Forin est là ici.
Bonjour
aussi.
Tout le monde.
Et nous avons également Mathieu Place, qui est tout près d'un micro qui ne fonctionne pas, mais...
Salut!
Hey, oui, Mathieu! Ça. Bonjour, bonjour. Alors, messieurs, petit tour de table en commençant l'émission, juste pour savoir de quoi vous allez nous parler. Christian?
Bien, moi, je vais vous parler de l'invasion heureuse, un beau phénomène, là. C'est les, disons, les franchises secondaires qu'on peut qualifier, là. Donc, qui envahissent tous les jeux. C'est très, une très bonne nouvelle, mais ça a un effet pervers. On va en parler tantôt.
On voit ça dans quelques instants. De ton côté, Guillaume?
Je vais parler d'un sujet très intéressant, du moins, je crois, de mon point de vue. Les tricheurs. Et quel genre de tricheurs êtes-vous dans les jeux?
D'accord. J'imagine, de ton côté, Mathieu, tu nous feras un peu d'actualité.
Oui, actualité, on va parler de Final Fantasy, l'arrivée du 3D en jeu vidéo, le Xbox et la Chine.
D'accord. Et il y a Sébastien qui a eu une très grosse semaine, je dois vous le dire. Fait des entrevues avec des gens en France, également a participé au GN des Maiserets vendredi passé avec notre collègue François et notre collègue Michael. Alors, de ton côté, Sébastien, on y va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée.
Oui. En fait, on va commencer d'abord par présenter, c'est qui ça, les Hello Geekettes. En fait, c'est tout simplement une surprise, une découverte sur Internet. Je sens que vous êtes tous en train de vous demander, c'est quoi ça, une geekette? Vous voyez, ils se grattent la tête, c'est vraiment évident qu'on se pose la question. En fait, geekette, c'est tout simplement, eh bien, le féminin de geek. Ok, un geek, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un petit peu notre pendant à nous là. Puis bah, imaginez-vous, eh bien, le pendant féminin de ce que nous sommes. Et puis
c'est comme la Schtroumpfette.
C'est exactement comme la Schtroumpfette. C'est ça, c'est vraiment le féminin. Et puis, bien, depuis quelques années, depuis un an maintenant, il y a une équipe très, très, très dynamique de Français qui s'est amusée à faire une série sur Internet, une série de petits clips que l'on peut retrouver, qui sont très drôles et qui sont, en fait, tout simplement, je dirais, des histoires basées sur la colocation d'une geekette, c'est-à-dire d'une jeune geek, avec un homme qu'on va dire normal. Il s'agit de Greg et de Valérie, qui sont évidemment en train de vivre des expériences absolument hallucinante et qui essaye de cohabiter et de faire cohabiter les deux mondes, le monde des gens normaux puis le monde des geeks.
Ce qui donne sûrement lieu à situations assez bizarres et rocambolesques.
Exactement. D'ailleurs, je vous propose d'écouter tout de suite peut-être un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler.
Bah, tu sais, si tu veux, moi je peux te montrer le meilleur de tous les MMORPG, hein.
Ah ouais?
Ouais, tu fais pas de shopping, mais tu fais des quêtes. C'est vachement bien.
Les MMORPG.
dans World of Warcraft, c'est...
Ouais, mais bon, tu vois, je suis pas sûre que ce soit mon trip, ce genre de choses.
Ouais, non, mais tu sais que je suis sûre que tu vas trouver des trucs qui vont vachement te plaire, hein. Puis tu sais, même là aussi, tu peux choisir ton avatar.
Ah bon?
Ouais. Ouais, moi, je te verrais bien. Ben, troll.
Non.
Tu préfères être un orc?
Non.
Un mort-vivant, peut-être?
Non.
Ben, un gnome, alors?
Non.
Donc on le voit évidemment, c'est une série sur internet, on l'a dit, c'est une série qui se veut pas au, qui se prend pas au sérieux. Là, c'est vraiment très très drôle. On va se retrouver dans des situations où on va parler de jeux, mais on va aussi parler de toute la culture geek, c'est-à-dire on va autant parler des mangas que des références cinématographiques comme Star Wars, les 15 incontournables ou même comme Tolkien. Puis ben comme c'est drôle que ça dure pas très très longtemps, évidemment, nous on s'est posé la question de savoir qui est-ce qui avait pu réaliser eh bien ces petits bijoux là que je vous invite d'ailleurs très 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 vite, si vous êtes devant votre ordinateur, allez peut-être visionner en faisant le www.hellogeekette.com. Hello comme hello en anglais et geekette c'est G-E-E-K-E-2-T-E. Et évidemment, vous allez pouvoir vous faire un petit aperçu tout en écoutant une entrevue qu'on a fait un petit peu plus tôt avec les personnes de la, bah de la réalisation. Il s'agit entre autres de Julien Pichard qui est co-créateur et producteur de la série et que je vous invite à écouter immédiatement.
Donc on est trois à la base, hein, c'est donc moi, Julien, Jérôme Gallioz et Nicolas Ramad. Tous les trois, on est soit geeks, soit des geeks honteux, ou des gothiques. Moi personnellement j'étais gothique quand j'étais jeune.
C'est pas grave, c'est, ça arrive à tout le
voilà,
monde.
Voilà, j'avais même, je faisais de la musique, j'ai même toujours un site qui traîne sur internet avec les morceaux que je faisais. Des trucs un peu industriels, gothiques. Jérôme, lui, c'était un paradoxe parce que c'était un fanatique d'Amiga quand il avait 15-16 ans et en même temps, c'était un dragueur complet. C'était très étrange, une sorte de... C'est pour ça qu'on était, Jérôme et moi, des geeks, on va dire, sympathisants. On n'était pas complètement... pour certaines raisons, mais en tout cas on était bien un pied de... on avait un bon pied dedans. Et puis Nicolas c'est le seul qui s'assume complètement, lui c'est... il le revendique hein, comme un étendard. Ah, ben voilà, c'est... donc c'est parce que bah à force de baigner dedans quoi, puis après il y a la passion du cinéma, c'est vrai que quand on est trop passionné, même si on en fait son métier, on finit toujours par saouler les autres et les autres nous traitent de geeks, ils nous disent mais grandissez un petit peu Et ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à en faire son métier, après on peut dire, ouais, mais non, regardez, on a beau faire les gros geeks, on en vit.
Est-ce que tu penses sincèrement que la thématique des geeks est en ce moment in, ou en tout cas pourrait être perçue par le public de manière très positive?
Ce qui est clair, c'est que le mot geek, c'est, je pense que ça, de moins en moins, c'est un mot péjoratif.
Tout à fait.
Ça l'était certainement quand ça a été créé... dans les années, je pense, 70 ou début 80, hein, je suis pas historien du truc, quoi, mais ça doit certainement dater de cette époque-là. Et, mais en même temps, les gens qui ont construit la nouvelle technologie sont pas tous des geeks, mais enfin, bon, je dirais en grosse partie. Et les types qui étaient un peu les losers face aux sportifs, aux cadors de la banque, de la finance dans les années 80, sont devenus dans les années 90, après l'Internet, les gens qui étaient à la tête de la technologie qui permettait de faire de l'argent, quoi, c'est-à-dire l'informatique, qui était centré dessus. Quoi. Donc, c'est sûr que ça a changé. Quoi. Je pense que geek, maintenant, c'est moins une insulte. J'entends des jeunes, parfois, comme ça, qui se traitent de geek dès qu'ils se font un trip manga ou informatique...
Dis-moi, au niveau de votre audience, est-ce que tu as une idée de l'impact que ça a, vos petits clips, parce que vous commencez à être vraiment bien suivi?
Un peu, ouais. Maintenant qu'on a passé les 100 000, on peut savoir un petit peu qui regarde et comment c'est pris. Je sais que dans les milieux geeks normaux, il y a à peu près deux tiers de gens qui aiment bien et un tiers de gens qui aiment pas trop. Et personne au niveau moyen, personne aime moyennement, quoi. C'est deux tiers qui aiment bien et un tiers qui aiment pas. Alors que dans le milieu des gens normaux, entre guillemets, les gens aiment bien, ils sont très réceptifs, quoi. C'est vraiment, ça a pas mal marché. Ça nous a beaucoup surpris, en fait. On pensait pas que ça prendrait comme ça. Et dans le milieu des geeks vraiment hardcore, des no life, hein, les gens qui sont à fond dans le délire, ça a moins bien pris, quoi. Enfin, on a reçu quand même quelques messages d'insultes assez incroyables, quoi. On n'en revenait pas.
Peut-être que les hardcore gamers sont très susceptibles.
Mais je pense aussi, quoi. Ils sont pas trop reconnus, je pense, dans le fait que les personnages sont très expansifs. Et puis, peut-être aussi dans le fait qu'on cherche quand même à faire une série qui soit pas une série ghetto et compréhensible que par les geeks, qu'on veut que ce soit compréhensible par les jeunes. Et les jeunes, ils n'ont pas forcément une culture geek hyper pointue, parce que justement, ils sont jeunes, ils découvrent, et ils aiment bien parce que, bah voilà, ils aiment bien les jeux vidéo, les mangas ou les comics, mais ils n'ont pas forcément encore toutes les références. Et puis, on a envie aussi que quelqu'un, même qui n'a pas forcément les clés, puisse comprendre, quoi. C'est comme pour l'épisode manga, on a utilisé le mot manga et on était sûr que des gens nous diraient « Non, c'est animé le vrai terme, c'est pas manga, le manga c'est l'édition papier ». Mais en même temps, voilà quoi, si on veut que ce soit compréhensible par tout le monde, et puis étant donné qu'en plus la série elle est pas 100% geek, l'idée c'est de confronter deux univers, donc les gens normaux symbolisés par Greg et ses amis, eux ils ont un vocabulaire de gens normaux, quoi, et quand Valérie parle à Greg, elle lui parle en termes qu'il peut comprendre, quoi. C'est vrai qu'il a du mal, le pauvre, à la suivre un peu, alors...
Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Toujours sur les ondes de Sequoia, alors une intéressante entrevue que Sébastien a menée avec les gens qui s'occupent de HelloGeekette.com. Juste pour dire que, avant de continuer, nous avons l'habitude les lundis d'avoir une activité qui est à l'Abraham Martin tous les soirs. Ce soir, fête du travail, cette activité est suspendue, donc n'aura pas lieu. Donc, on va reprendre ça la semaine prochaine et on vous invitera à l'Abraham Martin. Si vous êtes intéressé, parce qu'en fin de compte, Sébastien a fait une entrevue également avec l'un des comédiens.
Avec qui Greg.
Joue. Greg.
C'est le personnage principal, c'est en fait Jérémy Malaveau, de son vrai nom. Et oui, une très intéressante entrevue. Malheureusement, c'est sûr qu'on est un petit peu limité dans le temps.
On est un peu limité dans le temps, mais on pourra la retrouver sur notre site internet, le site de Puissance Maximale, donc le www.puissancemaximale.com dans quelques jours environ. Nous allons retrouver ça. Et on passe tout de suite à Christian Lacroix aujourd'hui. Christian.
Oui, bonjour. Alors donc moi, je vais parler d'un phénomène dont j'ai réalisé l'ampleur récemment. C'est qu'on a la chance depuis plusieurs années, d'avoir des grandes franchises bien connues. On parle de Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Étoiles, Star Trek et compagnie. Donc ça date depuis le début des jeux qui sont exploités, ces franchises-là. Mais là, il y a un nouveau phénomène depuis peut-être 7, 8, 10 ans. C'est les franchises vraiment plus secondaires, même tertiaires, les franchises moins connues qui sont transposées en jeux de rôle, en jeux vidéo ou autres, des jeux de plateau aussi, des jeux de cartes, tout ça. Par exemple, je vais parler de séries que je connais bien, puis qui sont moins connues un peu. Par exemple, Le Trône de Fer, je ne sais pas si vous connaissez ça, non? George R. Martin, il faut absolument lire ça, c'est aussi bon que Le Seigneur des Anneaux. Oh là, je vais choquer des gens, mais c'est vrai.
Oh,
c'est vrai.
Déjà des appels.
Non, c'est vraiment bien. Et il y en a plein d'autres aussi, des univers de ce genre-là. Par exemple, c'est pas traduit en français, mais le Thief's World. Thief's World, c'est un univers merveilleux. J'ai acheté le jeu de rôle, mais je peux vous dire que j'étais parmi les gens qui faisaient des adaptations avec Donjons et Dragons de cet univers-là. Et là, heureusement, on a eu des versions avec l'auteur principal qui était impliqué là-dedans. En tout cas, bref. Donc, on voit ça arriver. C'est génial, mais le problème que ça crée, le beau problème qu'on a après, c'est d'intéresser des gens dans nos cercles de joueurs qui n'ont souvent pas lu ces livres-là ou pas vu ces choses-là, ces séries-là. Donc, c'est comment les amadouer, tu sais, parce que là, il faut comme que tu vendes ta salade. C'est excellent, tu vas voir, c'est vraiment là, spécial. Là, tu essaies de décrire le monde, mais là, finalement, tu te dis, ben, regarde, je vais te passer soit les DVD de la série ou là, peu importe. Là, ça peut être des fois aussi une autre source. Ils vont parler des animés, tu sais, un animé un peu underground, mal connu, qui a été adapté, ben là, encore là, faut vendre sa salade. Puis des fois, les gens, ça tombe pas dans leur goût, ou ils ont pas le goût de se taper mille quelques pages de texte. Oups. Alors bref, là, ils disent, finalement, on
sont bien dans leur bonne vieille pantoufle.
Ouais, exactement. Ils veulent retourner. Pourquoi qu'on compte pas notre campagne, mais toi, t'as le goût de changer puis d'aller vers ça. Alors souvent, moi, je me retrouve, en tout cas, avec un paquet de beaux livres comme ça, ou de beaux jeux de plateau, d'autres types, là, qui dorment un peu sur mes tablettes. je les lis, je les, là, j'ai du fun à lire ça, je fantasme de jouer ça, mais c'est de trouver des joueurs. Fait que c'est un peu, en tout cas, un effet pervers du phénomène. Mais pour un collectionneur, et de toute façon, ça s'adresse beaucoup aux collectionneurs, les fans. Vous avez aussi des séries comme de science-fiction, Stargate, compagnie, il y en a eu plein d'autres récemment.
Battlestar Galactica, qui est très populaire quand même comme série télévisée, ainsi que comme jeu, mais pas connu de tout le monde.
Voilà, c'est ça, c'est là que je cherchais, effectivement. Puis il va y avoir un jeu de plateau, entre autres, sur ça qui s'en vient prochainement. Ça, ça va être, je pense, un grand succès. Alors donc...
Oui. Question qui me vient comme ça, Christian. En fin de compte, tu te ramasses avec le problème qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui veut jouer, par exemple, à ces nouvelles séries-là. Tu fantasmes là-dessus. Est-ce que ça serait pas le bon moyen, justement, d'initier des nouvelles personnes à ça, ou est-ce que c'est trop compliqué pour les non-initiés?
Ouais, ben souvent c'est des univers très détaillés, hein, donc qui plaisent aux geeks, justement, parce que les geeks, on sait que c'est souvent des caractéristiques, c'est qu'ils sont extrêmement passionnés et ils adorent le détail. Ils vont savoir tous les détails de chaque personnage, et plus il y en a, plus ils sont contents. Souvent c'est un peu des encyclopédies vivantes, mais d'une série en particulier. Là, si on pense aux X-Files, j'ai connu un maniaque des X-Files, là, c'était épeurant, là, tu sais, il pouvait te dire tel épisode de telle saison exactement, tout le synopsis là comme ça de mémoire. Bon, ça c'est presque un autiste, là, pratiquement. Mais enfin, bref, on voit ça souvent. Les geeks vont adorer ça. Mais il y a plein de niveaux, hein, de geekitude. Oh, j'invente des termes, là. Mais bref, tu sais, de niveau de geek, là, vous avez le geek. Moi, je suis pas un vrai geek total, là, qui est capable, justement, j'ai pas une mémoire si grande que ça. Mais bref, il y a différents. Il y en a qui sont plutôt geeks, mais pas de là à se taper, là, des milliers de pages, puis à faire des recherches sur des sites web, sur des séries. Tout à un moment donné, ils décrochent. Fait que c'est ça. C'est d'intéresser les gens. Mais oui, c'est une belle opportunité pour faire connaître ces univers-là. À un moment donné, Seigneur des Anneaux puis Star Wars, c'est très intéressant. J'y joue comme tout le monde, mais à un moment donné, t'as le goût d'aller voir ailleurs. Il y a d'autres choses qui sont excellentes.
Là. Il y a des créateurs, justement, qui ont mis un peu leur imagination au service des autres.
Vous avez Glenn Cook, un autre exemple, avec les chroniques la Black Company, c'est ce qu'on appelle, là. En français, ça a été traduit, je me rappelle plus par quoi, mais donc le Black Company, c'est vraiment une série hallucinante, là, comme la guerre du Vietnam, mais en médiéval fantastique. Là, c'est vraiment donc aller explorer ces mondes-là, et heureusement il y a plein de jeux qui s'en viennent dans tous les formats pour supporter ces univers-là. Donc, je vous encourage à aller voir ça.
Excellent, merci beaucoup Christian.
Ça fait plaisir.
Alors on passe à une pièce musicale.
Oui, on va passer à une pièce musicale. En fait, comme à chaque semaine, eh bien, on a la visite de Muzax, muzax.com, qui est notre partenaire, en fait, qui nous fait le choix musical. Et aujourd'hui, il nous propose d'écouter le thème de Fable, le fameux jeu dont tout le monde a entendu parler, oui. Sorti en 2004 sur la Xbox. Eh bien, sachez, messieurs, parce que je sais que vous êtes impatients de savoir toutes les informations sur cette tune-là, que quasiment toute la totalité des pièces ont été réalisées par Russell Shaw, sauf une. Qui est le thème, justement, qui a été réalisé par Danny Elfman, qui était aussi, eh bien, la personne qui a composé Monsieur Jack, le Noël de Monsieur Jack. Donc, on va écouter ça immédiatement, puis on se retrouve tout de suite après. Thank you.
Ici Francky.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Toujours sur les ondes de CKIA, nous allons passer tout de suite à Guillaume Forand, notre chroniqueur. Et Guillaume, disons que tu as passé la semaine à faire des recherches au niveau anthropologique, au niveau sociologique sur la tricherie dans les jeux. C'est ça que je comprends?
Oui, tout à fait. J'ai passé, je vous dirais, une grosse heure totale pour faire les recherches là-dessus. Mais on n'a pas besoin d'avoir plus de temps. Il y a tellement de gens qui ont donné des commentaires, leurs avis sur qu'est-ce que tricher dans un jeu. C'est quoi qui considère tricher? Y a-t-il des limites? Y a-t-il des choses? Parce qu'on, si on se rend jusqu'à un certain point, ça passe encore. C'est un petit peu comme dans la vraie vie. Il y a des choses qu'on peut faire, mais si on dépasse, c'est un petit peu trop loin, c'est pas correct. Vous donner un exemple. Dans un jeu, disons qu'on joue à un jeu comme Final Fantasy. Là, on est devant un gros monstre. Ça fait une heure qu'on joue, qu'on essaie de le battre. Ça fait 6 fois qu'on est mort, qu'on repart le jeu, qu'on recommence le combat. C'est quoi qu'on fait? Est-ce que, genre, on passe encore 2 heures à essayer puis finalement on abandonne ou on réussit? Est-ce qu'on demande à un ami qui a déjà passé au jeu? Qui a déjà passé le jeu puis comment faire pour le battre? C'est quoi le truc? Ou encore là, on s'en va voir sur Internet, voir des sites qui nous disent comment faire? Ou encore là, on s'en va dans, télécharger un logiciel puis on modifie notre personnage puis on tue le monstre à un coup? C'est quoi qui est triché? C'est quoi les limites dans le jeu qui fait en sorte que c'est considéré de tricher?
C'est vrai que c'est quand même assez large, là, comme concept au niveau du jeu, parce que moi, je me souviens que je jouais à Grand Theft Auto sur le PlayStation dans le temps. Et bon, je peux pas vraiment dire que c'est de la triche ou de la, en tout cas, on pourrait en discuter. Mais, Grand Theft Auto, quand tu fais les missions puis que tu meurs après une mission parce que t'es pas capable de la faire au complet, tu te retrouves à l'hôpital. Puis dans ce qui est ton personnage, tu t'aperçois que dans ces différentes statistiques, il est mort 1, 2, 3, 4, 5 fois selon les fois que tu le refais. Et moi, toutes les fois que je mourais, j'allais vers ma partie qui était sauvegardée et j'allais la rechercher pour ne pas justement avoir cette statistique de décès là.
Puis aussi perdre ses armes, ça c'est frustrant.
En plus, c'est ça, on perd les armes au complet.
Tout, hein, ben oui,
c'est chacun. C'est ça, mais quand même, c'est vrai que c'est une question qui se pose.
C'est ça. Ben souvent, qu'est-ce qui va faire la différence, c'est dans des jeux en ligne, donc à plusieurs joueurs, dès qu'on fait quelque chose pour améliorer nos performances, comme dans les jeux de shooter où est-ce qu'on doit tirer sur quelqu'un, des logiciels qui font en sorte qu'on pogne automatiquement la personne. Donc ça, c'est vraiment de la triche. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Oui, parce que c'est au détriment des autres joueurs.
C'est donc, ça. On enlève la partie de plaisir que les autres ont pour améliorer la nôtre.
Au niveau du jeu en ligne, c'est quelque chose qui était présent là dans le temps de Diablo, des choses comme ça. Mais j'imagine que les concepteurs, les programmeurs ont commencé justement à mettre des environnements qui fait qu'on peut pas vraiment tricher.
Diablo, il y avait des serveurs là de la compagnie qui étaient vraiment sécures là, qui ont bloqué toutes les formes de triche. Alors ça, c'est très bien.
Effectivement, dans les jeux en ligne, à plusieurs personnes, les gens qui fabriquent les jeux vont porter une attention à ce sujet-là et vont même sortir des mises à jour pour contrer justement des choses que les gens vont faire pour tricher. C'est sûr, certain qu'il y a toujours des petits, on pourrait dire des bugs dans des jeux que les gens vont exploiter, mais pas nécessairement au détriment des autres. Mais comme qu'on donnait dans l'exemple, tirer sur quelqu'un, on touche automatiquement. Dans un jeu de combat où est-ce qu'on se tire dessus, il y a rien de plus plate, on meurt toujours à chaque fois, la personne elle nous a à chaque fois. Par contre, là où est-ce que ça devient intéressant, c'est dans les jeux où est-ce qu'on est seul. C'est-tu vraiment de la triche quand on est seul de « Ah, je suis pas capable de passer ce bout-là » Je vais modifier mon personnage juste pour pouvoir le passer. Je continue l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le fond?
Ouais, c'est ça. Mais il y a plusieurs facteurs. Premièrement, moi, j'ai plus de 30 ans. Puis souvent, on a moins de temps. Quand on avait 14 ans, on pouvait passer à... on avait du temps. C'est la matière qu'on avait le plus. On manquait d'argent, mais on avait du temps. Là, plus ça va, c'est le contraire. Moi, j'ai plus d'argent, mais j'ai moins de temps. Donc, à un moment donné, là, j'ai passé un certain nombre d'heures. Puis là, je veux me rendre à la fin. Et un autre phénomène, c'est l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans un jeu maintenant, c'est oui, la jouabilité, mais c'est surtout l'histoire qu'on me raconte. Alors, si je veux l'avoir à la fin de l'histoire. Fait que oui, je vais tricher entre guillemets pour atteindre la fin de l'histoire, mais c'est moi seulement qui me pénalise.
C'est ça.
Donc c'est moins grave.
Effectivement, comme dans la série de StarCraft, le jeu de base et l'extension, j'adorais l'histoire, mais il y avait certaines missions que j'avais du trouble à faire. C'était long et je reprenais 3-4 fois. Éventuellement, je me tannais, Je trichais, je passais la mission, je continuais l'histoire et j'étais content, j'étais heureux. Mais par contre, je pouvais pas faire ça en ligne avec d'autres gens parce que là, je m'aurais fait bannir un petit peu des serveurs.
Puis souvent aussi, il y a un autre phénomène, c'est que moi, je trichais, j'avais tendance à tricher plus à une certaine époque, mais maintenant, c'est vraiment un dernier recours parce que c'est vrai que tu te sens moins fier à la fin quand tu réussis, mais tu sais que à deux ou trois reprises, tu as triché, c'est pas la même satisfaction que quand tu as passé vraiment à travers. Là.
Effectivement. Puis encore là, au niveau de la triche, j'ai une amie à moi qui m'a parlé de ça cet après-midi pendant que je faisais mes recherches. Elle-même, elle a eu une conversation avec une autre amie de commun sur un vieux jeu qui était Baldur's Gate, qui était un jeu basé sur Donjons Dragons. Et au début, on doit rouler notre personnage et de façon aléatoire, nos attributs sont générés. Mais il y en a une qu'elle allait rouler pendant 2 heures de temps jusqu'à temps qu'elle ait des attributs qu'elle voulait sans nécessairement être maximisée, tandis que l'autre utilisait un éditeur pour aller chercher les attributs qu'elle voulait sans nécessairement se maximiser encore là. Donc, il y en a une qui a roulé pendant 2 heures, l'autre a pris 10 minutes pour ajuster qu'est-ce qu'elle voulait. Y en a-t-il une qui triche plus que l'autre? C'est-tu de la triche encore là, de base?
Ouais, c'est pas pareil, il y a de l'exploitation aussi. Là. Ça, c'est on exploite une caractéristique du jeu, là. Quelqu'un qui reroule, moi je l'ai fait pendant 2 heures. T'es encore légal. Déjà, à la limite, on s'entend, mais t'es encore légal. Tandis que l'autre qui prend un éditeur, là, c'est carrément.
Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, puis c'est drôle, ça me fait un petit parallèle avec la triche dont tu parles, parce que ce qui est arrivé aussi avec les concepteurs et les jeux en ligne, c'était que on a créé dans ces serveurs-là Internet, les serveurs en ligne, des possibilités d'envoyer à l'extérieur ces joueurs-là. Donc, faire un kick, qu'on dit en anglais, là, sortir les joueurs qui trichent. Et c'était quand même très bien pour ceux qui étaient les hôtes des sessions de jeu, de pouvoir faire ça. Sauf que, d'un autre côté, c'est rendu que on se fait sortir parfois de sessions sans avoir fait quelque chose qui est vraiment négatif ou qu'on pourrait dire de la tricherie. C'est tout simplement que cet après-midi, je jouais à Warrock sur la PS3, qui est un jeu quand même intéressant. C'est un jeu de tir et t'as différentes façons d'éliminer tes adversaires. Et moi, ce que je fais en fin de compte, c'est que je place des mines antipersonnelles un peu partout. Donc, quand je les ai, je l'en place sur les avions, dans les tanks. Donc, quand les gens arrivent dans ces bolides-là, automatiquement, ils sautent. Bon. Ben ouais, mais écoutez, c'est pas de la tricherie, on appelle ça de la stratégie. Et en plus, ces mines antipersonnelles-là font du bruit quand on les approche, donc on les aperçoit de très loin.
Ah, c'est toi qui faisais ça.
Eh oui, c'est moi. Non, mais en fin de compte, je me suis fait sortir cet après-midi pour ça, puis je trouvais ça un peu plate, parce que je veux dire, il y en a qui font d'autres trucs, il y en a qui prennent un sniper, qu'on dit en anglais, donc un fusil à longue portée, et qui se placent en haut de la montagne et qui attendent seulement ça que tu passes devant eux, donc c'est pas vraiment meilleur, et bon, c'est peut-être pas de la tricherie ou quoi que ce soit, mais je trouve que le phénomène, en fin de compte, de justement sortir des gens de session, qui était justement fait pour les tricheurs au départ, ça s'est avéré quelque chose d'un petit peu
plus... Il y a de l'abus aussi là-dessus.
Il y a de l'abus.
C'est vraiment de valeur. Mais au niveau de la tricherie, en fin de compte, tricher seul et tricher ensemble,
c'est pas pareil. Dans les jeux en ligne, dès qu'il y a des choses que les gens peuvent exploiter, les créateurs vont faire des mises à jour pour justement empêcher les gens de pouvoir faire ça dans le futur. Tandis que dans les jeux, on pourrait dire single player, les jeux où est-ce qu'on joue seul, c'est qu'est-ce qu'on appelle des Easter eggs souvent. Donc, des choses qu'on peut découvrir, qu'on peut débloquer, mais c'est pas grave parce qu'on joue tout seul. Donc, les concepteurs intègrent dans leur jeu justement des codes pour tricher, pour pouvoir être invulnérable, des choses comme ça, tandis que dans le jeu en ligne, on peut pas activer ces codes-là non plus.
Ah, il me vient un autre exemple, c'est Civilization. Je sais pas si vous connaissez le fameux jeu.
Mais oui, très
de
bon
stratégie.
Jeu.
Les gens allaient tellement se downloader des éditeurs que à partir de la version 2, je crois, ou 3, là, ils ont mis un carrément dans le menu, là, il y a une section cheat. Alors, tu vas débloquer ça, puis là, tu as accès, tu peux éditer dans le jeu un paquet de paramètres. Je trouve ça intéressant parce que quelqu'un qui veut faire des tests, c'est surtout pour ceux qui se font leur carte, leur scénario, ben là, ça permet de tester un paquet de variantes sans avoir à se créer des jeux infinis.
Et on parle beaucoup de jeux vidéo, mais en terminant, juste pour savoir, vous qui êtes amateur de jeux de rôle, amateur de grandeur nature, tout ça, est-ce que la triche est présente dans ces... Parce que je sais que quand on a un maître de jeu, j'imagine que ça doit être un peu plus gênant de faire une petite passe-passe devant les joueurs, mais est-ce que ça se passe? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, en fait, on appelle ça les power gamers, souvent. C'est des joueurs là qui vont vouloir absolument, par tous les moyens, avoir le personnage le plus fort, etc. Et là, c'est au maître de jeu, qui est un peu l'arbitre, de faire son travail, puis de dire un instant, là, non, là, t'exagères. Donc, mais il y a un travail de diplomatie à faire, c'est pas évident.
Effectivement, mais même dans les jeux de rôle, où est-ce que dès qu'on roule des dés, des fois, il y a certains joueurs vont rouler le dé et reprennent le dé rapidement. Oups, j'ai roulé ça.
Ah oui, ça, je l'ai vu.
Ça, c'est,
mais. Ça arrive encore, malgré le fait que vous soyez des joueurs qui jouent ensemble avec compte de façon régulière.
Ah, tout à fait. Puis même les autres joueurs sont au courant, mais le joueur lui-même ne veut pas nécessairement perdre. Donc, même s'il n'y a pas vraiment de perdant, c'est une histoire qu'on suit, ils vont avoir tendance à vouloir justement modifier le résultat des dés. C'est la même chose en grandeur nature. Il y en a qui, ça, c'est le temps de tomber, ils ont plus de vie, ils sont morts, ils tombent. Il y en a d'autres que, oh, j'avais ça à ce moment-là, ou j'avais ça. Ça, c'en a dans tous les jeux, puis c'est éventuellement, c'est une question de faire confiance et de maturité aussi entre les gens.
En vieillissant, ça a tendance à s'atténuer.
J'imagine. Alors, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment intéressant comme chronique sur la tricherie. Sébastien, on passe en musique?
Oui, avec grand plaisir. En fait, je vais vous faire découvrir quelque chose que moi-même, je trouve extrêmement drôle. Il s'agit du phénomène de nerdcore. Nerdcore, c'est quoi ça du nerdcore? C'est comme son nom l'indique, évidemment, il s'agit non pas d'un site extrêmement spécialisé là pour les nerds, mais plutôt d'un style musical qui s'apparente énormément au hip-hop et puis qui évidemment va reprendre autant, je dirais, le visuel des nerds, c'est-à-dire les grosses lunettes, les gars très bien habillés avec des grosses chemises puis des pantalons bouffants, mais aussi, évidemment, au niveau des thématiques qui sont reprises dans les chansons, qui sont toujours axées sur ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire les jeux vidéo et autres petits gadgets. Donc, je vous laisse avec ça. Il s'agit en fait de MC Frontalo. C'est Nerdcore Rising avec la pièce qui s'intitule « This Old Man ».
And hairier on my neck, back, and derriere. Oh, but not atop the paint, dear DNA. Let's negotiate. I'll trade the fading vision, you can have that back. Plus, the 30-year-old man belly is kinda whack. My hearing is hearing deafness, and I wheeze. Yo, please save me from the wrist hurt disease. It's infeasible that these are full list of ailments. Should do anything but accrue. I'ma fail 10 times out of 10. To age in reverse like Mork. Is there anything sadder than a dork? For whom the new hotness is not just inaccessible, it's grumbled against. You kids, reduce your decibels. Don't make me come over there and shake my cane. Is that rapper from the double ARB and he insane? This old man, he rhymed once. He put up some valiant fronts with a wick-whack bitter lack of youthfulness and charm. This old man kept driving on. Joints creaking while I squeak around the stage. Hologram of this telling me I ought to act my age deranged. Already I don't got no brain medicine. If we were running out of food on a boat, I'd get jettisoned or eaten. I'm unsweetened. Don't tell me that I got the shortest straw. I'm not a cretin, just a little senile and gassy and slow. But I bet I'm very salty and I can still row. Let's gobble on that infant. Infants are useless. Also very soft, which is good cause I'm toothless. Come on, kids. You wanna get rescued or what? Don't mumble all amongst yourselves. Speak up. I lost my ear horn the other day on the bus. You would think by the way you whippersnappers make a fuss that I said something crazy, profound, or obscene. Wait, where'd the ocean go? Where have you taken me? This old man, he rhymed twice. He found this would not suffice. With the whip-whack bitter lack of youthfulness on limb. This old man was dour and grim. Oh, this old man was dour and grim.
Now front a lot shopping for the top of the hill. Should've bought a burial plot soon as I got ill, but I foolishly thought that I could put it off. Now I'm ghoulishly fraught with the soft in the head, hard in the disposition. How'd I earn this intractable attrition of the vigor that I figure would be mine for life? Is there no upside? Well, the rhymes arrive every year I'm alive. Add to my vocabulary, gonna do it till I'm staring at the ceiling in the mortuary. Plus, I'm probably wise by now and could do all the things old people talk about, like count pills, argue bills at diners, get a little tiny funky car and be a Shriner. Go to the haberdasher so I can look dapper, get stroke and forget I'm too old to be a rapper.
This old man, he rhymed thrice. He spoke up in gruel of lies with a wick whack bitter like a youthfulness and spunk. This old man's rhymes was fun. This old man, he rhymed lots, rhymed till he grew liver spots with a wick whack bitter like a youthfulness and cheer. Why,
dans la chaudière.
Mettez la puissance maximale.
Puissancemaximale.com.
Ah, oh. Oh. Ouais. Place à la chronique de Mathieu Place.
Hey, Mathieu qui est ici pour les actualités. On rit toujours quand on entend ce jingle-là.
Oui, je l'aime tellement. Là. Je vais vous faire une petite annonce là avant de commencer ma chronique. Là, c'est à propos d'une exposition qui a lieu à l'Agité, qui est dans le quartier Saint-Roch, là, proche de la bibliothèque Gabriel Roy. En fait, c'est une exposition que j'ai fait moi-même de mon métier. Je suis designer graphique. Alors, j'ai fait des affiches qui sont le bestiaire du monde de Lovecraft. Alors, ceux qui connaissent Lovecraft, vous savez qu'il a créé toutes sortes de bizarreries plus étranges les unes que les autres, eh bien, je me suis amusé à essayer de les représenter. Mais là, évidemment, Lovecraft, il décrit pas beaucoup ses bébites. Hein. Il dit juste qu'ils sont horrifiants.
Ils sont horribles et puis ça trace. C'est l'angoisse totale.
C'est l'angoisse totale. Alors, chaque lecteur imagine l'horreur qui...
Avec beaucoup de tentacules aussi, bien sûr.
Oui, toujours beaucoup de tentacules, c'est vrai. Alors, bon, vous irez voir à peu près à quoi ça ressemble, là, dans mon cas, là, les horreurs de Lovecraft vues par Mathieu Place.
Et c'est jusqu'à... Quelle date? On peut voir ça?
Jusqu'à jeudi, vendredi de cette semaine. Alors, profitez-en, là, allez jeter un petit coup d'œil, allez prendre une petite bière cette semaine là-bas, là, puis vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Alors, oui, les heures d'ouverture, ben, ça commence à partir de 5 heures jusqu'à peut-être 3 heures, là, c'est un bar. Alors, vous avez accès à là-bas jusqu'à tard dans la soirée.
Excellent, merci.
Alors, pour les nouvelles, en fait, j'ai 4 nouvelles à vous proposer. La première, c'est à propos du 3D. Alors, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Je sais que Sega, dans les années 90, avait tenté l'expérience, avait essayé de faire un système pour qu'on puisse voir les jeux vidéo en 3D. Mais là, puisque le cinéma a fait beaucoup de pas vers cette direction-là, eh bien, là, maintenant, c'est possible de transférer tout ce qui a été fait en 3D. Là. Bon, vous savez, des fois, à IMAX, là, vous avez possibilité de mettre des lunettes, vous pouvez voir le film en 3D. Il y a le dernier Harry Potter qui avait eu cette possibilité-là, et puis vous aviez eu un film cet été qui s'appelait Journey to the Center of the Earth. Eh bien, bon, tous ces films-là utilisaient une technologie 3D qui va être possible de transférer dans les jeux vidéo. Alors, ça s'en vient. C'est Vidia qui a présenté ça au dernier Envision 2008 à San Jose. C'est la première fois qu'on a pu présenter la technologie. Et puis, ça va pouvoir être appliqué aux jeux Call of Duty, World at War, Spore, Race Driver Grid, Devil May Cry 4, Unreal Tournament 3. Alors, bon, c'est tous des jeux qui sont assez populaires. Alors déjà, ça s'en va tout de suite vers des grosses pointures. Et puis moi, j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler là, avec le 3D. Là, je pense que ça va être une autre évolution là, dans le domaine des jeux vidéo. Autre nouvelle, pour ceux qui voulaient s'acheter un Xbox 360 ou ceux qui hésitaient entre les consoles de la dernière génération, sachez que l'Xbox va baisser de prix bientôt. Bon, des fois, les producteurs de jeux vidéo font ça. Après une certaine période, une première période, ils vont baisser les prix des consoles pour pouvoir attirer une nouvelle gamme de joueurs parce qu'ils se sont rendus compte que l'Xbox, bon, puisqu'il y avait eu bien raisonnable, mais il est en train de perdre du terrain à côté des deux autres. Et puis, bon, là, maintenant, il va être encore moins cher que la Wii et encore moins cher que le PlayStation 3. Alors, il espère que plus de gens vont aller se procurer un Xbox 360 par la suite.
C'est quand même normal aussi parce qu'on s'en vient sur les 3 ans là, du Xbox. Il est sorti en 2005, en novembre 2005. Et bon, oui, il y a eu beaucoup de ventes parce que, bien sûr, ils ont sorti un an avant les deux autres consoles.
Oui.
Mais je pense qu'il commence à être temps parce que c'est vrai que la PlayStation, c'est quand même toute une machine puis est en train de prendre beaucoup, beaucoup de marché.
Il commence à avoir beaucoup de jeux intéressants qui arrivent sur le marché pour le PlayStation 3. Alors, bon, c'est ça. Il va falloir que Xbox réagisse là, avec un
mais
peu peut-être moins.
La fort. Xbox, ça reste quand même une très bonne machine, une très bonne console de jeux.
Oui. Bon, autre nouvelle. Vous avez, par exemple, on a parlé beaucoup de la Chine dans les dernières semaines. Eh bien, bon, en Chine, ils commencent à avoir des problèmes avec beaucoup de joueurs compulsifs. Ils se sont rendus compte que 10% des joueurs qui avaient, mettons, entre 15 et 30 ans, les joueurs jeunes, 10% d'entre eux étaient des joueurs compulsifs ou c'était vraiment maladif leur affaire. Et puis, bon, justement, le gouvernement chinois a décidé de réagir à ça. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de 2006, ça fait quand même une couple d'années, mais là, ils vont renforcer le système. Ils ont obligé les joueurs à s'identifier une fois qu'ils entraient sur un réseau Internet de jeux. Alors, ils vont pouvoir savoir qui joue à quel jeu, et puis bon, ils vont pouvoir vérifier si les joueurs jouent à des jeux qui sont pas trop violents, pas trop pornographiques. Et puis, évidemment, dans le cas de la Chine, il y a une autre sorte de jeu qu'ils aiment pas beaucoup. C'est les jeux qu'ils appellent non patriotiques, où les Chinois ont le rôle des méchants, entre guillemets, là. Alors, bon, je sais pas trop c'est dans quel contexte de guerre récente ou passée où on peut jouer contre les Chinois, mais toujours est-il que ces jeux-là aussi, c'est un problème pour le gouvernement chinois.
Ben, j'imagine que même n'importe quel jeu qui a même pas rapport à la Chine ou les Chinois, mais qui fait pas affaire avec ce qu'eux pensent, j'imagine que ça doit être non patriotique. Donc, ouais, ça doit être quand même une assez grande vague de jeux que tu peux avoir à ce niveau-là.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux aussi où on combattait les communistes, là, de manière large, là, les Russes, etc.
Alors, les différents jeux de guerre, finalement, tout ça, même si c'est pas lié directement à la Chine, là, aussitôt que tu rentres dans la politique, la guerre froide ou quoi que ce soit, là. Il y a des liens à faire incroyables. C'est certain que ça va être des jeux qui seront pas...
Mais moi, j'ai l'impression que ça va finir par tout ça, là, toutes ces censures-là du gouvernement chinois, ça va finir par leur déborder des mains. Ils seront plus capables de maintenir ça. Justement, quand on regardait à la télé de Radio-Canada, on voyait Jean-René Dufort qui allait sur les sites dits interdit en Chine, et puis il suffisait que le site soit fait dans un autre langage que le chinois ou l'anglais, par exemple un site pro-Tibet en français, ben là il était pas censuré. Alors il suffit que les Chinois apprennent d'autres langages, et puis là déjà le gouvernement chinois est plus capable de dealer avec la situation.
Oui, juste une petite chose que je rajoute, c'est que souvent là, la censure puis le contrôle, ça commence toujours par une bonne intention. Comme là, hein, on dit pour protéger les pauvres petits, le 10% là de joueurs compulsifs, hein, on va les surveiller pour leur propre bien-être. Mais après ça, c'est le début.
On a la mainmise sur tout le reste.
Le début de la fin.
Oui, c'est ça, le début de la fin.
Autre nouvelle, dernière nouvelle, c'est à propos de Final Fantasy 11 qui est sorti il y a pas très longtemps. Vous saviez que dans Final Fantasy 11, il y avait un monstre qui s'appelait Pandominium Warden. Et puis bon, la particularité de ce monstre-là, c'est qu'il est presque impossible à battre. C'est que il y a plusieurs joueurs qui ont essayé de s'attaquer à ce monstre-là. Et puis après 18 heures de jeu, ils n'ont pas réussi à le battre. J'imagine que c'est possible quand même, mais les créateurs de Final Fantasy ont décidé de mettre un monstre là, qui était geek-proof, là, qui était impossible à battre même si vous étiez un grand fan de jeu. Alors ça donne un défi vraiment insurmontable même pour les plus grands joueurs. Mais sauf que là, le problème, c'est que là, ils ont eu une espèce de backlash, là, une espèce de revers contre eux, parce que les joueurs, bon, ils trouvent ça abusif de la part de Final Fantasy de placer des monstres aussi difficiles à battre que ça. Et puis bon, là, les journaux ont embarqué là-dedans. Il y a toujours des grands questionnements dans la société en général sur l'abus des jeux, etc. Alors, pourquoi les gens abusent des jeux? Et puis bon, là, justement, Final Fantasy a décidé d'arrêter de mettre ce personnage-là dans ses jeux, parce que là, c'était devenu abusif. Alors, si vous rencontrez dans votre jeu de Final Fantasy Pandominium Warden, bon, ben là, essayez pas de le battre, là, ça va vous prendre une journée entière de 24 heures.
Ou bien tout simplement aller sur les sites que notre ami Guillaume fréquente
tricher,
parfois.
Voilà, et... tricher.
Ah non, je disais pas que tu fréquentais ça. C'est
ah
bon.
Non, faut pas. Vas-y.
Mais peut-être, oui, seulement qu'il y a des trucs.
Alors, ça fait le tour des actualités pour
Parfait.
Cette semaine.
Merci beaucoup, Mathieu. Et oui, vas-y.
Oui, j'aurais une petite nouvelle pour les gens qui aiment bien Le Seigneur des Anneaux. Il y a l'extension Les Mines de la Moria qui sort très bientôt cet automne, une expansion qui vont justement être basée complètement sur les mines souterraines.
D'accord.
Oui, vraiment.
OK, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Alors, juste avant de terminer l'émission, moi, je veux juste vous dire que la semaine dernière, j'ai mis la main sur un article sur Internet qui était écrit par Jessica Mulbier sur le site godgame.com, donc www.godgame.com, qui avait comme titre, je vais vous dire en anglais, « Gamers are lazy, stereotype or statement of truth ». Donc, les joueurs sont paresseux, et est-ce que c'est seulement un stéréotype ou est-ce vraiment la vérité. Et cette dame-là, bon, on disait que le stéréotype du joueur en général pouvait se résumer par un seul mot, celui de paresseux, celui du type assis sur le divan, bien relax, avec une boîte de pizza froide à ses côtés, prêt à la manger, et bien sûr le bon vieux 2 litres de Coke ou de Pepsi qui est là et qui se vide en un rien de temps. Et bon, elle disait que les joueurs, ce sont des gens qui ne font rien d'autre que de jouer à la journée longue. Et comment qu'elle se faisait pour se baser là-dessus, elle, son premier argument, tout simplement, c'était qu'elle se basait sur son frère, qui est adolescent. Donc, elle voyait son frère aller, et juste de la façon dont il était, de la façon dont il agissait, elle a décidé d'écrire, en fin de compte, cet article-là. Elle disait que la majorité des joueurs jouent très tard, donc se lèvent très tard, ce qui en fait des joueurs paresseux. Donc, c'est certain que quand on rentre sur un jeu, on parlait tout à l'heure de jeux vidéo qui sont... sur Internet, en ligne, puis là, on commence à jouer, puis hop, on joue avec d'autres gens, puis ça n'arrête jamais. C'est vrai qu'on se couche tard. Peut-être qu'on se lève tôt aussi.
Donc, tu comprends bien, son enquête se base sur un cas. Bravo pour la méthode scientifique.
Eh oui, en fait, on se base sur un cas. C'est certain que, bon, c'est pas nécessairement un article qu'on va retrouver dans le grand journal de sociologie ou scientifique ou quoi que ce soit. C'était seulement sur un site Internet. Mais quand même, elle disait, bon, elle faisait, en fin de compte, le portrait du joueur type, selon elle. Là, celui-là qui s'assoit sur sa chaise ou sur le divan de façon pour avoir une mauvaise posture. Celui qui souffrira sûrement de maux de dos dans quelques années, malgré le fait qu'il joue à un jeu qui peut l'intéresser, a quand même la musique forte à côté, sur soit des disques compacts ou sur un poste de radio quelconque, se fait livrer de la bouffe à la maison parce que il veut pas en faire, il est toujours en train de jouer, ou bien justement, il n'est pas capable d'en faire tout simplement. Et en fin de compte, tout ça, la mauvaise position du corps. Et bon, c'est certain que Elle citait aussi des études américaines qui disaient que les ados passent en moyenne 6 heures devant les écrans par jour. Écran, et là, on parle pas seulement de jouer à des jeux, mais ça serait tout simplement aussi peut-être à l'école, le fait qu'ils soient devant des ordinateurs, le fait qu'ils regardent la télévision. Donc, 6 heures, c'est quand même beaucoup, j'avoue. Mais il faut pas oublier que c'est une moyenne. Il y en a peut-être qui en passent une dizaine, puis il y en a peut-être qui en passent pas du tout d'heures devant l'écran. Alors, est-ce que les joueurs sont vraiment si paresseux que ça?
Ben non, écoutez, premièrement, c'est prouvé que les jeunes à l'école, ceux que les grands joueurs là, de jeux vidéo, ont des meilleures facultés de résolution de problèmes, en mathématiques aussi, ils sont plus forts, même en vocabulaire. Souvent, pour les francophones, leur anglais va être meilleur parce qu'il y a beaucoup de jeux en anglais, donc ils développent. Alors, c'est prouvé ça, donc je suis pas sûr, moi.
C'est comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui vont abuser de quelque chose. Je connais des gens, moi, que eux à tous les jeudis, vendredis, samedi soir, sont rendus d'un bar, ils boivent de l'alcool, ils se lèvent à 3 heures de l'après-midi le lendemain, puis ils repartent le soir. C'est comme n'importe quoi, il y a toujours des gens qui vont abuser. Mais jouer à un jeu vidéo, c'est pas pire qu'en regarder la TV pendant 3 heures de temps, puis dire à nos enfants, t'as pas le droit de jouer à l'ordinateur pendant ce temps-là. À un moment donné, il faut savoir bien doser le tout.
Mais c'est un peu aussi l'image que les gens ont pareil des joueurs, je veux dire...
Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'activité de jouer à un jeu vidéo est une activité passive. Alors, mais sauf que chacun, on a toutes sortes de facettes. Passive de manière physique, là. Je sais pas trop ce que tu fais, là, mais bon, c'est sûr qu'au niveau de l'intellect, ça bouge beaucoup, là. Mais au niveau physique, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus passif. Mais bon, on est tous des gens avec toutes sortes de facettes. On a toutes sortes de facettes à notre vie. Alors, c'est sûr que quand on joue, on a peut-être l'air passif à ce moment-là. Mais tu sais, un gars a besoin de se reposer une fois de temps en temps.
Passer à autre chose.
C'est ça, c'est une manière de se reposer au lieu de lire ou de
au même titre que lire un livre. En fin de compte, l'imaginaire, ce qu'on a de nouveau, en fin de compte, ce qu'on s'imagine en lisant un livre, on l'a aussi dans un bon jeu vidéo.
C'est ça. Mais moi, ce qui m'agace, c'est qu'on revient toujours avec ce stéréotype-là qui est basé sur des cas extrêmes. Donc, par contre, il y en a, pour chaque joueur compulsif qu'on parlait un peu, là, le 10% en Chine ou whatever, il y en a, ça veut dire qu'il y en a 90% qui ne sont pas compulsifs. On n'en parle jamais de ces gens-là. Hein, des gens qui ont un mode de vie sain, qui vont faire leur jogging, puis ils reviennent, bien tiens, je vais me taper 2 heures de MMO, puis après ça, bon, il y a un horaire raisonnable, puis je vais me faire une salade, puis bon, tu sais, pourquoi on tombe toujours, non, ça, on n'en parle pas, hein, parce que ça briserait le stéréotype, et là, on pratique le stéréotype, là, pour ces gens-là, qui sont des non-gamers, puis qui vivent pas avec des gamers, là. En tout cas, moi, ça m'agace, ce côté-là, de prendre un extrême. Moi, je pourrais trouver un jardinier qui est alcoolique, qui est complètement, qui a un comportement débile, puis là, je le prendrais, celui-là, là, regardez, là, tous les jardiniers jardiniers, les gens qui font du jardinage, ce sont des imbéciles profonds. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ben non, voyons donc, c'est très sain le jardinage. Mais voyez-vous, donc, s'il vous plaît, lâchez les codes espèces.
Je suis d'accord avec toi, puis en fin de compte, on en est des exemples nous aussi. En fin de compte, on fait du jeu, on est des gamers à notre façon, parce que bon, il y en a qui préfèrent les jeux de rôle, les grandeurs nature, d'autres préfèrent les jeux vidéo. Puis je pense qu'on a toutes des habitudes de vie qui sont quand même assez saines. On a quand même tous des emplois et on fait d'autres choses aussi dans la vie. Et on ne passe pas non plus nos fins de semaine à des 12 heures de temps de fil, en fin de compte, sur nos écrans ou en train de placer des cartes ou quoi que ce soit. Donc, on en est quand même des exemples. Puis je suis certain qu'il y a plein quand même d'auditeurs qui sont dans le même bateau que nous. Alors, cette Jessica Mulbier, vous pourrez aller la voir son article sur godgame.com. Mais en fin de compte, ce n'est pas la vérité. Tout simplement, c'est ça la conclusion des gens de puissance maximale. Alors, on va conclure l'émission dans quelques instants. Le temps de peut-être parler. Oui, Sébastien.
Du calendrier, tout simplement.
L'agenda, oui.
Mais oui, l'agenda. Quoi faire en fin de semaine et puis pendant toute votre semaine? Si vous êtes un petit gamer ou un gros gamer, tout dépendant de votre statut et puis de votre stature. Puis évidemment, si vous êtes capable de vous soulever de votre sofa, puisqu'on vient d'avoir une conversation passionnante sur est-ce que vous êtes physique ou non. Eh bien, sachez que si vous êtes un minimum physique, que vous savez pas quoi faire le vendredi soir, parce que des fois ça peut arriver, vous pouvez aller à un rave par exemple, ce serait le fun, mais vous pouvez aussi jouer un monstre dans un grandeur nature. Voilà une expérience mais extrêmement intéressante, et puis c'est ce qu'on a essayé la semaine dernière. Justement, on est allé tout simplement au Maiserie, puis on a participé à l'activité, c'est gratuit, on fait un monstre, c'est-à-dire que je vous avouerai que c'est très particulier, on fait peur au monde. Des fois, on est plus ou moins déguisé, puis plus ou moins fort. C'est sûr que bon, tout dépendant de son type de jeu, mais c'est très extrêmement drôle. Et puis, je peux vous assurer que si à un moment donné, vous avez un petit vendredi soir, que vous savez pas quoi faire, que vous avez envie de vous défouler un petit peu en tabochant du monde, eh ben, c'est extraordinaire. D'ailleurs, en parlant de ça, on va vous faire un documentaire animalier sur la vie d'un monstre pour la semaine prochaine. C'est prévu, et puis ça devrait être très, très drôle. Puis bon, pour la fin de semaine, qu'est-ce qui se passe à la fin de semaine? Bien, c'est le gros rassemblement des joueurs de jeux de plateau à Granby, puisque chaque année à Granby se tient les journées ludopathiques de Granby. Évidemment, il va y avoir plus de 200 à 300 joueurs qui vont se réunir là-bas pour pouvoir essayer tous les types de jeux de société possibles et imaginables et rencontrer, entre autres, je pense qu'il y a un invité spécial cette année de la compagnie Cocktail Games qui s'en vient, donc ça va être encore plus intéressant. Par contre, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire ou qui entendent juste pour la première fois, eh bien, cette annonce. Dommage pour vous, les inscriptions sont bouclées et la journée va avoir lieu, elle est déjà pleine. Puis enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de journée à la Bras-Martin, mais par contre, Puissance Maximale sera à Réclame ta rue. Ne l'oubliez pas, nous serons dans quelques minutes dans la rue pour pouvoir essayer de jouer en votre compagnie peut-être, ou sur un sofa tout simplement, à des jeux en... où est-ce que ça a lieu, Réclame ta rue, cette année? C'est à côté de Limoilou, du cégep Limoilou, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, ça devrait être dans ce coin-là, ce qui fait qu'on vous y attend tous et toutes dans très très peu de minutes, le temps pour nous de sortir de la station.
Alors, juste également le temps de dire que le 6 septembre prochain, ce sera le tournoi provincial de Risk également, en même temps que la rencontre Ludo de Granby, en fin de compte, la rencontre Ludo de Granby qui dure 2 jours. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Alors, messieurs, je vous remercie. Merci Mathieu Place.
Salut, à la semaine prochaine.
Guillaume Forin, merci également Christian Lacroix. Salut. Et Sébastien Léonard qui a fait la mise en onde de l'émission aujourd'hui.
Et c'est un gros bye-bye.
Bonne semaine.
Get a little harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D.
Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo!